L'autre soir à table, j'ai annoncé que France Télécom allait fermer à Cahors, que je devrais aller travailler à Montauban. Ma fille s'exclame, alors, mais ton patron, il sait que tu as des enfants? Je lui réponds que cela lui est indifférent, que l'on existe, et comment on va faire? Je lui dis que je devrais me lever vers 5h30 pour partir vers 6h15 en voiture pour récupérer le train vers 6h40 et que le soir je reprendrai un train vers 18h30 et que je serai à la maison vers 20h. Elle me dit alors, et vous, on ne te voit plus? Je lui dis que je n'ai pas le choix, il faut travailler pour payer les crédits, la maison et les voitures, les factures, les frais de scolarité, tout le reste. Elle ne dit plus rien puis enchaîne. Mais pourquoi vous avez fait quelque chose de mal? C'est une punition? Je lui réponds que non, que c'est une politique de productivité. Il s'en fiche de la route que l'on a à faire, des risques d'accident, du stress, de l'angoisse que l'on a quand on se réveille la nuit en ne pouvant pas se rendormir, quand on ne pense qu'à ça, du comment on va faire pour tenir le coup, du mal-être à partir au travail le matin, à la journée à faire avec les collègues en évoquant notre avenir, le conjoint qui risque de pas trop trouver de travail si on déménage. Un silence, elle me dit qu'il faut que je lui dise à ton directeur que ce qu'il fait, ce n'est pas bien.
J'ai du mal à comprendre pourquoi le PDG de France Télécom, il n'est pas mis en examen. Parce qu'avec 24 morts, c'est beaucoup. Parce que moi, sur un chantier, si j'ai un mec qui tombe d'une échelle, je suis mis en examen dans la journée. Un artisan qui a un accident du travail, il est mis en examen tout de suite. Alors, les responsables, ils sont où? On aimerait bien le savoir. On aimerait bien le savoir.
Bonjour, je m'appelle Martine Vimenet. Je téléphone aujourd'hui parce que j'ai entendu M. Xavier Bertrand sur France Inter, à l'émission de M. Demorand, parler du suicide des employés de France Télécom. M. Bertrand a parlé d'autopsie des suicides et dit aussi que la personne qui se suicide veut attirer l'attention sur son cas. Bon, mon père s'est suicidé 3 mois après la mort par maladie de ma maman. C'était préparé, il nous avait prévenus pour nous habituer à l'idée et il ne s'est pas raté. Il a fait parce que sa vie ne valait plus le coup d'être vécue, parce qu'il n'espérait plus connaître les petits bonheurs que nous sommes tous en droit d'attendre. Bien sûr, vous pourriez penser que son suicide n'est pas comparable à ceux qui se succèdent à France Télécom. Mais moi, je crois que si. Quand la vie perd son sens, que ce que l'être humain croit pouvoir attendre d'elle, respect de la personne, bonheur de vivre, semble inatteignable. Certains d'entre nous, et ce ne sont pas de loin les moins courageux, préfèrent partir. Je veux aussi dire que je pense résolument que le choix du suicide sur le lieu du travail, s'il est une désignation, est aussi un cadeau que fait la personne à ceux qui restent. Faisant cela, elle espère que les problèmes qui l'ont amené à cet acte permettra à eux de les sauver et que leurs conditions de travail changeront. Ils donnent à leur mort un sens, un don, comme le fit mon père pour ses enfants, en nous expliquant son geste. Honneur aux morts pour une vie digne.
Bonjour à tous. Moi, j'estime que Didier Lombard, non seulement il doit démissionner, mais je souhaite aux familles des victimes de Télécom d'avoir le courage de porter plainte pour non-assistance à personne en danger.
Oui, bonjour Daniel Mermet, ici c'est moi, le petit Belge. Dites, c'est pour dire que j'entends qu'on se suicide beaucoup à cause du boulot. Et je voudrais dire à tous les mecs qui ont des idées de se suicider à cause du boulot, ben, qui commencent par péter la gueule de leur garde-chiourme, ça leur fera du bien et ça leur évitera de se suicider. Parce que j'ai 65 ans, tu vois, et nous on nous a jamais emmerdés sur le boulot parce qu'on n'était pas là pour se faire emmerder, on était là pour gagner notre tartine. Et les garde-chiourme savaient qu'il ne fallait pas nous emmerder parce qu'ils avaient la gueule pétée. Ils ont eu des exemples, hein, soit en face, soit sur le côté, mais ils savaient qu'il fallait pas nous emmerder. Hein? Allez les gars, au lieu de vous suicider, pétez la gueule de vos gardes-chiourme, vous allez voir, ça va vous faire du bien, et ils vont se calmer.
Un peu de soleil dans l'eau froide dans cette époque de barbarie. Merci à Yvette, merci à toi mon cher Daniel. Je terminerai par une phrase de Rimbaud. Du même jour à la même nuit, toujours mes yeux se réveillent à l'étoile d'argent. Voilà, c'est Maryse de l'Aude. Au revoir.
Bonjour, je voulais simplement dire que j'étais un fidèle auditeur de là-bas si j'y suis, que j'écoute depuis les tout débuts. J'ai donc pu mesurer l'évolution de cette émission que j'écoutais à l'époque, un peu comme on pouvait regarder Striptease à la télévision. Je veux dire par là que là-bas, si j'y suis, nous donnait à entendre sans trop de parti pris des documents toujours pleins de saveur et de poésie. Et c'était avant tout pour ça que je l'écoutais et que je l'écoute encore d'ailleurs. Parce que j'ai pas de conscience politique, même si je me situe plutôt à gauche toute, mais quand je regarde ce qui est devenu l'émission aujourd'hui, je me rends compte un peu de mon manque d'engagement et de la difficulté que j'aurais eu à organiser dans ma vie une forme de résistance communautaire, mais j'estime que j'ai quand même l'impression de résister à ma façon, comme cette résistance dont Paul Éluard disait qu'elle s'organise sur tous les fronts purs. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que ma tête est haute et que mon front est pur, et j'estime que c'est déjà pas si mal. Mais ce n'était pas le but de mon appel. J'ai trouvé très touchant l'émission de ce lundi. Et j'espère qu'on aura des nouvelles de ce petit garçon élevé par son arrière-grand-mère à Toulouse, car j'habitais à l'époque la fenêtre en face de ce petit couple merveilleux dans une toute petite chambre de bonne, dont les toutes petites fenêtres laissaient passer les rires de ce tout petit garçon que j'espère aujourd'hui aussi heureux que sa mamie voulait qu'il devienne. Voilà, bonne journée à tous.
Edith Piret, en Belgique. Bien. J'ai entendu la rediffusion concernant Yvette, je crois, l'aveugle et son petit-fils. Je me demande si les Français s'y perdent dans leurs 70 et 90, qui demandent déjà des complications dans les additions. Mais si elle avait 73 ans en 91, 91 plus 18, ça ne fait pas 101, mais ça fait 91. Bien, c'était une petite erreur mathématique. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Ben oui, l'erreur mathématique. Je me suis planté hier pendant une heure sur l'âge d'Yvette. Bien sûr qu'Yvette n'a pas 100 ans, n'aurait pas 100 ans, mais 90, 73 et 17 ou 18, voilà. Alors voilà, tout le long, et vous avez envoyé des nombreux messages dans le répondeur de la base, si j'y suis, pour dire mais qu'est-ce que c'est que ce mermet mauvais en calcul, etc. Alors, il y a eu beaucoup de messages de toutes sortes, comme d'habitude, qui nous rend toujours heureux et estomaqués chaque jour. Vous nous estomaquez chaque jour. Mais parmi les messages que nous avons reçus hier, après-midi, après l'émission, il y avait celui-ci.
Bonjour. Voilà, je suis Yvette de Toulouse. Je suis la fameuse Yvette dont il vient de rappeler, bon, etc. Et je vous dis tout de suite que je n'ai pas 100 ans. Je vais sûrement avoir 91 ans le 17 octobre, voilà. Et j'aimerais bien que Daniel me rappelle, parce que je lui raconterai la suite de l'histoire, qui est peut-être plus merveilleuse que le début, voilà. Eh bien, je vous remercie.
Et voilà, hier, dans le cadre des rétrospectives de là-bas si j'y suis, l'occasion des 20 ans de là-bas si j'y suis, on est revenu sur cette émission qui date de 1991, L'amour aveugle avec Yvette, qui à l'époque avait 73 ans, vous avez compris? Et ben voilà, elle est tout ce qu'il y a de vivante, elle nous laisse ce message extraordinaire, non? C'est vraiment, alors c'est le cas de le dire, perdu de vue, là, ah, c'est perdu de vue. Et bien quelques instants après, j'ai rappelé à Toulouse, Yvette. Yvette ?
Oui ?
Oui, c'est Daniel Mermet.
Ah mince ! Bonjour. Eh bien, vous vous êtes trompé. Je n'ai pas 100 ans.
Voilà.
J'ai 91 ans le 17 octobre. Voilà, je me suis dit quand même, il me donne 100 ans.
Mais oui.
Alors que je suis toujours la même.
Ouais.
Je me suis marrée quand je me suis entendue parler. Il y a 19 ans, je me suis trouvée... C'est très drôle. Et je suis comme j'étais avant.
Ben oui, votre voix n'a pas changé en tout cas.
Ah bon? Ni mon caractère.
Ouais.
J'aime toujours autant la vie. Et figurez-vous que quand vous êtes venu interviewer, donc...
Oui.
Eh bien, j'ai connu au Maroc un monsieur en 1953. Bon, je l'avais beaucoup aimé, puis comme je venais de divorcer, je voulais pas me marier. Alors bon, il est parti, et puis voilà, bon. Puis la vie a passé, et puis un beau jour, il m'a rappelé, parce qu'il m'avait entendu parler. Alors il m'a cherché à peu près partout. Vous voyez, c'est grâce à vous.
Ah bon ?
Ah oui, 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 parce qu'il m'avait entendu, il a été sidéré, il a reconnu ma voix, et alors il a cherché à me revoir. Et il est revenu en 2003, le 18 juillet, et depuis ce temps, c'est merveilleux. Voilà. J'ai trouvé vraiment, quand je vous disais que le grand amour de ma vie, c'était Jean, non. J'avais pas compris ce qu'était l'amour, si vous voulez.
Ouais.
Et avec lui, j'ai compris que c'est ce qu'était l'amour.
Donc, alors si je comprends bien, Yvette, suite à l'émission de l'époque, de 91...
Grâce à vous, j'ai retrouvé un vrai amour.
Oh, ça alors.
Un vrai, parce que il est... Bon, je vais vous dire, c'est la vérité, hein. Il est très amoureux de moi.
Oh.
Et nous avons la chance, tous les deux, de... c'est difficile à dire, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Comme si nous avions 30 ans. Incroyable, mais vrai.
C'est-à-dire incroyable. Eh ben, vous voulez dire que vous faites l'amour, voilà.
Pareil.
Ah, formidable.
Mieux encore qu'il y a 30 ans.
Ah bon ?
C'est incroyable.
Génial.
Et ça, il faudrait que je le dise à un médecin, parce que ça vaut la peine.
Mais quel âge a-t-il, votre fiancé ?
C'est pas mon fiancé, allez. Mon compagnon, disons.
Oui.
Et il n'a que 85 ans.
Oh ben ça va.
Vous voyez, je les prends au biberon.
Oui. Bon. Alors lui, 85, vous, moi, 91, et c'est le grand amour avec tout ce que ça comporte.
Absolument, avec tout ce que... Et une entente extraordinaire sur tous les plans.
Oui.
Et voilà. Mais maintenant...
Dites-moi, alors, qu'est devenu votre petit-fils, Gilles ?
Oh là là. Oh là là. Bon, alors, ma petite-fille, sa mère, est allée au tribunal en 1995... pour le prendre, parce qu'elle n'avait ni appartement, ni travail, et ça lui procurait naturellement tout ce qu'elle n'avait pas. Alors elle l'a repris.
Ah, voilà.
Je suis allée au tribunal, j'ai eu beau me défendre, il paraît que quelle sorte de juge, c'est la première fois qu'il avait un sourire attendri en m'écoutant parler, mais ça n'a eu aucune importance parce qu'on l'a redonné à sa mère.
Ah, d'accord.
Et oui, et la catastrophe.
Et qu'est-ce qu'il est devenu ?
La catastrophe. Alors, elle l'a repris. Elle s'en allait pendant la nuit. Il a eu terriblement peur. Puis alors, elle ne l'a jamais ramené. Mais juste un jour, un de ses camarades de classe est venu me voir pour me dire que Gilles était presque en haillons.
Oh là.
Qu'il ne mangeait pas à sa faim. Alors je me suis dit, tant pis, hein, je vais peut-être prendre une volée, mais j'y reviens. Donc j'y suis revenue, c'était en 98, c'est-à-dire 3 ans après. Mm-hmm. Mon Dieu, il était dans un état... Enfin, elle ne m'a pas tapé dessus. J'ai rhabillé le petit, j'ai apporté des provisions, etc. Seulement, il est devenu délinquant. Bon, en quatrième, il a été renvoyé... 8 fois en 2 ans. Donc, il est allé dans 8 collèges.
Voilà.
Il a volé un scooter. Il a... Enfin, c'est épouvantable. Hein. Puis après, il ne revenait que pour avoir de l'argent. Et il s'est drogué.
Voilà.
Alors, il a connu une jeune femme dans un foyer. Il a eu un enfant en 2005... Et il est parti. Ou alors c'est elle qui l'a jeté, ou lui il a traînaillé un peu partout. Je lui ai envoyé de l'argent par l'intermédiaire de mes arrière-petites-filles, qui a 20 ans maintenant. Il n'est jamais revenu me voir. Et maintenant j'ai appris qu'il était à la mairie. Mais qu'il avait un contrat à durée déterminée. Et comme je connais quelqu'un qui a des accointances avec la mairie, je vais essayer de voir si on peut lui faire renouveler son contrat. Sans dire que c'est moi. Hein.
Uh-huh, uh-huh.
Parce que tout a été... Ça a été tragique.
Ouais.
Tragique. J'ai passé des années... Puis après, vous savez que j'aime la vie. Et la vie, ben, est revenue comme avant.
Alors, Yvette, à quoi vous passez votre temps, sinon ?
Oh bien, à quoi je passe mon temps ?
Ouais.
Eh bien, j'écoute la radio.
Ah, bien sûr.
Oh, vous m'avez fait beaucoup de peine, tiens.
Ah bon ?
Quand vous étiez devenue à gauche toute, je me suis dit, oui, mon Daniel qui nous racontait, comment s'appelait votre émission ? Oh, mince. La coulée douce.
Ouais, mais c'était coquin, ça, la coulée douce.
C'était délicieux.
Ah oui,
je
mais
me souviens que je vous écoutais quand je prenais mon bain.
Ah bah...
Je me sentais... Ah, mais j'ai jamais eu l'idée de... de joindre le geste à l'écoute. Hein. Non, je ne suis pas comme ça, moi. Il me faut du vrai. Moi, j'aime pas ça. Eh bien, vous étiez adorable. Et puis alors, vous faisiez des émissions formidables. Vous nous avez fait connaître des pays comme jamais, même si on y était allé, comme jamais on ne les aurait connus. Puis après, vous êtes devenue à gauche toute.
Ah bon ?
Ça m'a fait de la peine.
Ah bon ?
Je me disais, lui, qui était tellement adorable.
Bah, on peut être à gauche toute et être adorable.
Non, on ne peut
pas.
Ah,
pas les deux.
Non, on ne peut pas être à gauche toute comme vous l'étiez. C'est pas possible. Alors, j'ai l'impression que vous êtes toujours adorable.
Oui.
Bon, mais j'ai gardé pour vous une très grande tendresse.
Eh ben, ça me fait très plaisir, Yvette, ce que vous racontez là. Et ça encourage, alors c'est très encourageant, votre exemple. Ah, alors dites donc, si les gens de 90 ans passés se font l'amour comme à 30 ans, le monde change.
Et je vous avoue que c'est encore mieux.
Ah bon ?
Oui, parce que ça dure beaucoup plus longtemps.
Oui.
Parce que j'ai pour lui un très grand amour, beaucoup de tendresse, il est joyeux. On s'entend parfaitement.
Oui.
Et je vous assure que tout ce qui s'est passé avant, ça valait pas un clou. À côté de ce qui est maintenant, c'est incroyable. Et je crois que la chose est encore 1000 fois meilleure.
Eh ben, ouais, ça c'est très encourageant, hein.
Et oui. Et puis c'est pas uniquement de la tendresse, hein.
J'ai compris.
Il y a beaucoup de tendresse et il y a tout le reste.
Mais oui.
Incroyable. Mais vrai.
Merci, voilà. Merci Yvette. Je vous promets que si je passe à Toulouse, je vous appelle et on boit une bouteille de cidre tous les deux.
Oh, je vous en donnerai 2 bouteilles si vous venez.
Ok.
Voilà.
À très bientôt, je vous embrasse.
À très bientôt. Au revoir.
Et voilà. Vous voyez ce que ça fait d'écouter là-bas si j'y suis. Hein? Non seulement la vie continue, et puis vous avez vu ce qui vous arrive. Formidable. Donc restez à l'écoute, au moins jusqu'à 16h aujourd'hui. On passe à un tout autre sujet, les flagrants délits, disait-on autrefois. Aujourd'hui, c'est les comparutions immédiates. Et avec Charlotte Perry, on a passé du temps à la 23e chambre au Palais de Justice à Paris, où se déroulent ces comparutions immédiates ou justice de classe.
Un an de prison avec 5 mois ferme. Jamais été en prison, donc ce serait une grande première pour moi.
La justice des comparutions immédiates, c'est celle qui est immédiatement perceptible. Celle qu'on constate soi-disant facilement, c'est un peu la criminalité du pauvre.
9 mois de prison ferme, requis, ça fait lourd, quoi. C'est justice ou quoi ? On est où, là ?
Comment vous choisissez-vous les 3 affaires que vous allez défendre aujourd'hui ?
Je sais pas, on prend le paquet qui arrive et puis on les prend, hein, on est commis d'office. Hein. Donc on ne choisit pas son client.
Il n'y a pas de justice ici. C'est les Blancs qui gagnent et les Arabes qui perdent, c'est comme ça. Il est sur enculé, le président.
Salut, c'est là-bas si j'y suis, Daniel Mermet, avec Charlotte Perry. Selon que vous serez puissant ou misérable.
Flight number 2, arriving from.
On est sur le plateau correctionnel, qui est un endroit où, sur 2 étages, vous avez toutes les chambres correctionnelles.
Donc, à la 23e chambre correctionnelle, tous les après-midi à partir de 13h30 sont les audiences de comparution immédiate.
Alors une audience de comparution immédiate, je dirais, pour résumer, c'est la justice en temps réel. C'est-à-dire quelqu'un est arrêté parce qu'il est soupçonné d'avoir commis un délit et il va donc passer en jugement de manière extrêmement rapide dans ces audiences qui sont souvent, je pense qu'on le verra tout à l'heure, extrêmement surchargées. Et vous verrez que malheureusement, il y a peu de temps pour les dossiers. Je ne sais pas comment ça va se passer aujourd'hui, mais enfin voilà. Donc c'est la justice rapide. Contre nous, on appelle souvent de la justice d'abattage. Les dossiers sont traités, et bien voilà, pas forcément en pouvant tenir compte de toutes les personnalités des uns et des autres et de tous les éléments qui leur sont fournis. Je dois avouer que souvent, à l'issue de ces audiences, on en sort avec un peu un peu mal au cœur parce qu'on se rend compte quand même que ceux qui passent là, eh bien, sont ceux qui sont certainement les plus vulnérables, je dirais même voire un peu les plus paumés.
Vous avez plaidé la Évry il n'y a pas longtemps?
Il n'y a pas très longtemps, une affaire de délinquance financière où mes clients avaient effectivement détourné des fonds. Et juste avant, il y a quelqu'un qui est passé en comparution immédiate pour un vol de téléphone portable. Bon, qui avait un petit casier, hein, qui était un type pas très clair, qui s'exprimait pas très bien, on savait pas de quelle nationalité il était, il n'arrivait pas à dire s'il était portugais ou capverdien, enfin bon. Et il s'est pris 2 mois ferme. Et nos clients, j'ai un peu honte de le dire, n'ont pris que des amendes. Donc, c'est aussi ça, une justice de classe. Alors évidemment, vous pouvez tomber sur n'importe qui tombe en comparution immédiate. Si on se fait prendre parce qu'on a cassé la figure de son voisin, on peut passer en comparution immédiate. Enfin, vous verrez quand même, à mon avis, vu le type de population qui va passer cet après-midi, que ça ressemble quand même fortement à de la justice de classe.
Un dimanche soir, Maubert Isabeau, boulanger sur la place de l'église à Faverolles, se disposait à se coucher lorsqu'il entendit un coup violent dans la devanture grillée et vitrée de sa boutique. Il arriva à temps pour voir un bras passer à travers un trou fait d'un coup de poing dans la grille et dans la vitre. Le bras saisit un pain et l'emporta. Isabeau sortit en hâte. Le voleur s'enfuit à toutes jambes. Isabeau courut après lui et l'arrêta. Le voleur avait jeté le pain, mais il avait encore le bras ensanglanté. C'était Jean Valjean. En 1796, à 27 ans, Jean Valjean est condamné à 5 ans de bagne pour ce vol. La punition est aussi lourde parce qu'il est connu qu'il était quelque peu braconnier. Au bout de 4 ans, alors dans les premiers mois de 1800, Valjean tente de s'évader, mais on le capture 2 jours plus tard. Il est condamné à 3 ans de plus. Lors de sa 2e tentative d'évasion en 1802, il essaie de résister. En conséquence de quoi, il est condamné à 5 ans de plus, dont 2 à la double chaîne. Il essaie de s'évader encore 2 fois, dans sa 10e 1806 et sa 13e 1809 année, mais n'arrive pas à consommer sa fuite et reçoit les 2 fois une prolongation de peine de 3 ans. À 40 ans donc, en 1809, il apprend à lire dans l'école du bagne. Après 19 ans d'emprisonnement, il est enfin libéré dans les premiers jours d'octobre 1815. Il sort du bagne hardi et l'esprit plein de rancune envers la société qui lui a causé tant de mal. Il a compris ce qu'il a fait de mal, mais pour un crime si petit, il trouvait la punition exagérée. Il n'aspire qu'à se venger de cette société. Voilà quelques extraits de Misérables, de Victor Hugo, Jean Valjean. On se demande si ce personnage et cette histoire relèvent vraiment du passé quand on passe un certain temps dans cette 23e chambre à Paris, la chambre des comparutions immédiates. On le sait tous, il y a une justice à 2 vitesses dans notre pays, et pas seulement dans notre pays. Il y a 2 types de voleurs, 2 types de justice et 2 types de procédures. Il y a les sans-papiers, les drogués, les immigrés, les clochards, les chômeurs. Pour eux, la justice est rapide et sans pitié. Et il y a les très hauts fonctionnaires, les grands patrons, les intermédiaires incontournables du grand commerce international, les hommes politiques. Ils profitent parfois de l'argent public ou sont illégalement rémunérés pour le travail fourni. Tous ou presque échappent à la prison. Si on additionnait jour après jour, mois après mois, la valeur de chacun de ces butins ridicules dérobés par les voleurs des rues, il faudrait probablement plusieurs dizaines d'années pour atteindre les sommes détournées à l'occasion de la vente des frégates. Ainsi s'exprimait Jacques Vergès, avocat. Justice de classe, justice injuste, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand considérerons-nous qu'il s'agit là d'une sorte de fatalité? Jusqu'à 16h, là-bas si j'y suis, selon que vous serez puissant ou misérable. Thank you.
faire un pas suffit pour se retrouver. Deux pieds dans une cage à mordre un morceau d'oreiller. Pour peu que madame la justice ait écouté monsieur l'État. Maintenant on resserre les vis, je veux parler de célibat. A toujours raison, c'est ce que se disent les procureurs avant d'avoir à jeter quelqu'un en prison. Chaque maison a sa pièce la plus sombre, comme chaque source de lumière apporte son ombre. C'est le pharmacien qui se pique, le petit curé qui s'astique, une pipe pour une promotion, tout ce qu'on cache tout au fond. Mais qu'en est-il de la grandeur d'une nation où droit de l'homme et dignité s'arrêtent aux portes des prisons? Qu'en est-il de ceux qui vivent à l'intérieur, ce qu'on fait passer pour des monstres en disant pas qu'il y en a qui plairent? A toujours raison, c'est ce que se disaient ses parents avant de retrouver leur fils pendu en prison.
Pour des stupéfiants d'avoir détenu du crack et donné du crack. J'ai reconnu les faits à 100%.
Et qu'est-ce qu'ils ont requéri contre vous?
Un an de prison avec 5 mois ferme. Jamais été en prison. Donc ce serait une grande première pour moi. Donc, j'ai fait une bêtise, donc s'ils me sanctionnent, je serais pas contre leur décision. Je leur ai proposé que je fasse des travaux d'intérêt général pour qu'ils m'insèrent, je sais pas comment vous expliquer, pour qu'ils me mettent pas dans le trou. S'ils me mettent en prison maintenant, ça va me... J'aurai des désordres dans la tête, je serai bouleversé.
Vous avez quel âge?
J'ai 18 ans. Je suis jeune, donc j'ai beaucoup à apprendre. Donc s'ils me mettent en prison maintenant, ce sera peut-être des mauvaises habitudes que je vais prendre. Parce que la prison, c'est dur. J'ai beaucoup d'amis à moi, ils sont en prison. Je leur passe le bonjour, mais bon, j'aimerais pas les rejoindre quand même. Ça se voit que la prison, ça les a touchés. Donc j'ai pas envie de faire partir du même groupe. Ça aide pas à être meilleur. Ça aide juste à rentrer dans un trou. On va rencontrer les bandits qui vont nous expliquer des mauvaises choses s'il faut même.
Vous venez de quel coin? De quel quartier?
J'habite à Aubervilliers, du côté de la Maladrerie. À la cité La Maladrerie dans 93.
À chaque fois on se demande qu'est-ce qui a servi de modèle. Est-ce le théâtre qui a pris pour modèle le tribunal ou bien le contraire? La différence évidemment c'est que ici dans un tribunal la mise en scène est parfaite. Les personnages sont parfaitement définis et les rôles parfaitement attribués, sauf que c'est vrai. Sauf que c'est vrai, ce garçon n'est pas un personnage de reportage, c'est un vrai garçon avec une vraie histoire et qui est très vite présenté dans ce tribunal quelques instants pour faire la connaissance pour les membres du tribunal qui sont là, une justice rapidement rendue, bien trop rapidement rendue pour échapper aux préjugés et aux pré-notions. Oui, la justice, c'est nous avons chacun de nous des a priori, des emballements, des jugements à l'emporte-pièce contre celui-ci, contre celui-là. Très bien. La justice, c'est le contraire. La justice, c'est le temps. C'est le temps de mûrir, de réfléchir, d'enquêter, d'instruire pour enfin essayer de rendre la justice la moins injuste qui soit.
Or là, c'est la rapidité, c'est la vitesse, et pourtant, il s'agit bel et bien de gens qui ont peut-être qui sont peut-être innocents, qui ne sont peut-être pas, qui méritent peut-être plus d'attention que ces quelques minutes rapidement, trop rapidement passées. Alors ce jeune homme se présente, on nous explique qu'il ne part jamais en vacances, qu'il appartient à un milieu extrêmement pauvre, sa mère est femme de chambre, elle dort dans une seule, il y a une seule pièce dans l'endroit où ils vivent, les deux garçons, ses deux enfants vivent, dorment dans la cuisine, le papa est malade, etc. Une famille extrêmement pauvre, avec des grandes difficultés, et le garçon est poursuivi pour deal, en somme.
Et normalement, là, votre avocate, elle expliquait que pendant l'été, vous partiez en vacances, et cette année, vous n'étiez pas parti.
Non, cette année, je n'étais pas parti à cause de problèmes financiers. Donc après, le fait, la mentalité de la cité fait que quand on part pas en vacances, on voit les gens qui vous appellent en vacances, c'est un peu énervant. Donc on essaie de s'en sortir. On ne peut pas savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien. On est juste engrainé par l'argent, je vous dis la vérité. Sans penser aux conséquences, parce que quand tu fais une bêtise, on pense pas aux conséquences derrière quand vous vous faites attraper. Moi, je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai été jugé. Je sais que c'est pas bien ce que j'ai fait. Et j'admets que c'est pas bien ce que j'ai fait, mais il faut comprendre les causes pourquoi je l'ai fait. C'est ça qu'on essaie de leur dire. On n'a pas fait ça pour forcément les tuer ou leur faire du mal. On dit, bon, l'illicite, c'est bien, il y a de l'argent à se faire, c'est de l'argent rapide. Oui, certes, c'est vrai, mais il y a les conséquences aussi.
Vous n'en consommez pas du crack ?
Non, je ne consomme pas de crack. Moi, c'est comme j'ai dit, je souhaitais sur la clientèle. Je vais pas donner une substance à une personne que je vois, elle est mal en point. Si je vois la personne, elle est mal en point, je vais lui dire, je peux pas, j'ai rien pour toi. Mais comme c'était là, comme j'ai dit, comme vous avez entendu à l'audience, ils vous ont bien dit, Mercedes, costume, on va dire, voilà, je pensais que, bon, cette personne, elle est aisée, peut-être que ça lui ferait pas trop du mal par rapport aux autres, mais en fait, c'est la même chose. C'est même malgré qu'elle est en costume, malgré qu'elle a une grosse voiture, ça lui fait du tort et ça la détruit, cette personne, quand même. Donc c'est ça aussi. Donc j'ai compris. On dirait que c'était écrit. Cette personne, elle a été auditionnée. Cette personne, elle a dit ce qu'elle avait à dire et on la revoit plus. Cette personne, je l'ai vue deux fois et je l'ai plus revue de toute ma vie. Six fois, elle est partie voir un autre dealer. Donc ce qui fait que nous, c'est pas notre faute. C'est ça aussi, donc la justice. Donc on va faire avec, il y a toujours des hauts et des bas.
Alors vous êtes avocate, vous êtes maître. Mêlé, le premier cas, c'était le cas d'un jeune homme qui a vendu un pot de crack. Le procureur a réclamé un an avec 5 mois ferme.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de cette réquisition ?
Il n'a pas de casier judiciaire. Et j'espère que le tribunal tiendra compte du fait qu'a priori, il a un casier vierge. Mais malheureusement, à la 23e chambre, on est plutôt présumé coupable qu'innocent.
C'est du flagrant délit. Hein. Alors, les gens sont pris la main dans le sac quand même, là. C'est des dossiers qui laissent pas doute. Hein. Quand vous êtes pris quand même en train de tabasser quelqu'un... Ou de vendre de la drogue sous la surveillance de la police, il n'y a pas vraiment d'hésitation. Hein. Vous pouvez condamner tranquillement. C'est rare qu'il y ait un doute. C'est des dossiers qui sont ficelés et bien bordés. 9 fois sur 10 quand même.
Ce qu'on peut dire, c'est à l'évaluation du poids de l'infraction et sur les tarifs, si je puis dire, qu'on applique pour telle ou telle infraction. Parfois... On s'attend à ce que le condamné il prenne un an, il prend 3 mois, et on s'attend à ce qu'il prenne 3 mois, il prend un an. C'est l'appréciation des faits est très rapide.
C'est un peu la loterie.
C'est un peu une loterie, oui.
Vous-même, vous êtes avocat ?
Oui, je suis avocat, moi.
Comment vous choisissez-vous les 3 affaires que vous allez défendre aujourd'hui ?
On prend le paquet qui arrive et puis on... on les prend, hein, on est commis d'office. Hein. Donc on ne choisit pas son client.
On a des affaires
simples ou des affaires tordues. Quand je dis une affaire tordue, c'est une affaire dans laquelle les déclarations sont complètement opposées, par exemple. Alors, aller les démêler, le bon grain de livrer, c'est pas facile.
À propos d'avocat devant cette 23e chambre, au palais de justice de Paris, les avocats qui perçoivent 325 euros par journée, mais qu'il y ait 1 ou 10 dossiers, c'est le même tarif pour la journée pour ces avocats commis d'office qui ont très peu de temps pour prendre connaissance du dossier, pour faire connaissance avec les personnes poursuivies et très peu de temps évidemment pour construire une défense qui mérite ce nom. On retourne auprès de ce jeune homme, évidemment, vous avez compris, on n'est pas dans l'enceinte du tribunal, il est rigoureusement interdit d'enregistrer dans l'enceinte du tribunal, mais c'est à la sortie du tribunal, après l'audience, que ce jeune homme, accusé donc de vendre du crack, nous parle.
Nous, au commissariat, c'est pas la même police qu'on voit. C'est une autre police, c'est un autre gars qu'on essaie de faire montrer aux jurés, aux juges, aux procureurs, mais ils nous entendent pas, en sachant que c'est nous qui voyons. C'est pas eux qui voient. Eux, ils peuvent pas, parce qu'à chaque fois qu'eux, ils vont dans les commissariats, tout le monde est gentil avec eux. Mais quand le coupable, le commissariat, ils sont pas de la même façon. Ils vous tapent, ils sont vulgaires avec vous, ils vous insultent, ils disent qu'ils vont vous mettre en prison, c'est sûr que vous allez aller en prison, que vous êtes des animaux. C'est ça que j'essaie de faire comprendre aux juges. Comme vous avez entendu, j'ai pas donné mon ADN et mes empreintes, c'est juste par question de principe. On peut pas me traiter comme un animal. Donc, on me traite pas comme un animal. Je ne suis pas un animal, donc on peut pas me traiter comme si j'étais un chien ou prendre mes doigts de force. Non. Si vous me traitez correctement, je serai correct avec vous. Donc, c'est pas le cas dans les commissariats français. Ils m'ont emmené en garde à vue. Ils m'ont mis des petits coups pour que j'avoue. Je leur ai dit ma version. Et ils ont pas voulu trop m'écouter. Le dossier était déjà casé. Ils avaient déjà prévu ce qu'ils allaient mettre. On dirait que c'était déjà écrit. Donc nous, on avait juste à... On était les coupables, quoi. Donc on est comme en cage enfermée. Votre cas, il est déjà fait. Bon, vous allez être jugé. On sait que les procureurs vont dire ça parce que c'est toujours la même phrase qu'ils disent. Si on sait que vous vendez ça, donc c'est sûr que vous allez aller en prison. J'ai juste essayé d'arrondir un peu mes fins de mois. Pour mes parents, c'est difficile. On se bat pour 930 euros.
Parce que 930 euros, c'est les policiers qui ont pris ça et pour l'instant, ils sont saisis. Ils veulent pas vous les rendre pour l'instant.
Si, c'est ça, ils veulent pas trop nous les rendre parce qu'ils disent que c'est mon argent personnel en sachant qu'ils ont fouillé la chambre de ma mère.
Donc... Ils disent que c'est l'argent du crack alors que c'est l'argent de votre mère qu'elle a récupéré d'amis quand elle a payé un billet d'avion, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est même pas moi qui me bats, c'est elle qui se bat plus que moi. Moi, je suis accusé, mais c'est elle qui se bat plus que moi. Pourquoi? Parce qu'elle a du mal. C'est dur. C'est voilà, un mois de salaire qu'elle se bat pour avoir et se faire prendre comme ça, en même pas 20 minutes de perquisition. C'est parce que j'ai vendu du crack et ça y est, je suis coupable partout. Donc ça y est, on va trouver un peu d'argent, c'est l'argent de la drogue. Donc c'est pas comme ça.
Et votre mère, ils l'ont même pas auditionné pour savoir si c'était pas son argent à elle, par hasard?
Pas d'audition, rien, juste acte de présence et quelques papiers. Donc même si aujourd'hui je suis déclaré coupable, je prends mes peines et je vais en prison. Mais si ma mère récupère ses 930 euros, j'irai au moins le cœur léger en prison.
Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent?
Combien d'innocents se sont fait condamner à l'œil? Combien d'innocents se sont fait accuser sans preuve? Certainement plus que l'on imagine. Ont dû payer la note de ceux qui avaient réellement commis le crime. C'est injuste. Plutôt que c'est la justice qui choisit bien ses victimes sans prendre trop de risques. Ce n'est pas n'importe qui tombe entre ses mains. Ceux qu'on disait en général s'en sortent plutôt bien. Pas besoin d'aller jusqu'à Rome pour parler de corruption. Nombreux ont les mains sales, pas plus loin que dans cette nation. Pour bon nombre d'entre nous, c'est assez clair. La justice nique sa mère.
La justice nique sa mère. La justice nique sa mère. La justice nique sa mère.
Ouais, la justice. la balance. De tout ça on s'en balance. Et en aucun cas, en ces symboles, on aura confiance. On vit en France, et c'est loin d'être un paradis. Même si nombreux pensent qu'il s'agit du plus libre des pays. Qu'ils aillent donc voir comment ça se passe dans les tribunaux. Comment on juge des hommes et on les envoie derrière les barreaux. À peine a-t-on vu leur face qu'on les déclare coupables, coupables, même s'ils n'ont rien à voir. Ils sont condamnés avant tout pour ce qu'ils sont. Et non, pour le soi-disant délit qu'ils font. Si le juge veut qu'un tel tombe, alors il tombe aussitôt. Même s'il a beau proclamer son innocence, c'est le même topo. Faut pas s'étonner si les prisons sont pleines à craquer. Et si ceux qui les remplissent sont bien souvent les moins appliqués. En fait, tant que la justice sera pourrie, il n'y aura pas de paix.
La justice, sa mère. La justice,
vive sa mère.
La justice, sa mère.
C'était autrefois les flagrants délits, aujourd'hui c'est les comparutions immédiates, mais c'est toujours la 23e chambre à Paris. Il y a plusieurs chambres qui jugent, qui opèrent ces comparutions immédiates. Les affaires se succèdent et c'est toute voilà, la petite délinquance, toutes les petites histoires comme ça qui se succèdent. Il y a une dame chinoise qui se livre à la prostitution, qui a été arrêtée pour cela. Mais sur quoi va-t-on l'accuser? Eh bien, est-ce à cause du client qui a été interrogé et qui a témoigné? Est-ce l'hôtelier qui opère ses passes avec ses clients vers la porte dorée? Eh ben non, ce qui va la faire condamner, c'est parce qu'elle a souri. Et oui, si elle a souri, c'est qu'elle racole en vue d'incitation à des relations sexuelles en échange d'une rémunération. Et oui, le racolage, c'est dans le sourire. Et peut-être portait-elle une robe noire, ce qui peut constituer un élément renforçant l'idée de racolage, etc. Et il y a ainsi des affaires qui se succèdent. Alors, voilà, je le disais tout à l'heure, les uns et les autres, on a nos on dit ça c'est pas juste, ça c'est juste, etc. La justice n'a pas à considérer les choses de cette façon, bien évidemment. Écoutez cet homme qui est accusé, poursuivi pour avoir renversé un motard et s'être enfui. Voilà comment lui explique les choses.
Il y a certaines peines par rapport aux délits commis qui sont un peu injustes, quoi. Moi, pour mon cas, moi, on a parlé d'une affaire qui remontait en 92 où j'étais mineur, j'avais pas le permis. Alors qu'on me dise que j'ai toujours pas compris le délit de fuite, enfin, je vois pas bien de quoi on me parle, mais... Je trouve que 9 mois de prison ferme, re-re-keep, ça fait lourd, quoi. Je veux dire, 9 mois de prison ferme, il y a encore pas longtemps, on a eu un exemple. Il y a un gars qui a tué une femme sur la route. Il s'est enfui, délit de fuite. Bon, il n'avait pas l'alcool, d'accord. Moi, j'avais bu un double whisky, donc... Enfin, je trouve pas normal. Le mec, il a pris 6 mois de prison avec sursis. Je veux dire, moi, j'ai tué personne. En plus, j'ai fait un chèque de 3000 euros tout de suite à la victime là, pour montrer que ma bonne foi. J'ai dit que j'étais désolé, j'ai dit la vérité, de toute façon. Hein, c'est un comportement stupide, mais...
En fait, qu'est-ce qu'on vous reproche exactement?
D'avoir renversé une moto un soir de grande pluie et de m'être enfui, quoi.
Ça, vous reconnaissez, vous les...
Oui, tout à fait, bien sûr. Bon, c'est sur le coup de la panique. J'ai pas... Bon, c'est sûr que tant mieux que la victime ait rien, mais...
Pourquoi il demande 9 mois ferme? C'est très lourd.
C'est peut-être parce que j'ai eu une enfance malheureuse et forcément, comme a dit mon avocat, j'ai été un peu... eu la tendance plus dans la délinquance quand j'étais jeune, mais bon, j'ai jamais été quelqu'un de feu avec un fond méchant, jamais fait les choses gratuitement. Il me reparle d'une affaire de 92 avec un délit de fuite où, en l'occurrence, j'étais dans une maison de correction et on a fugué à 5 ou 6, et donc c'est même pas moi qui conduisais. Puis quand on voit qu'on est face au président et que les assesseurs dorment, que tout le monde dort, on s'en fout complet, on vous écoute même pas. Enfin, si c'est ça la justice, moi, si mes ouvriers viennent travailler, ils s'endorment pas sur le chantier, sinon ils sont pas payés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, enfin, je veux dire, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui sont un peu paradoxales quand même dans le système.
Vous travaillez dans le bâtiment, c'est ça?
Je suis entrepreneur, moi, ouais. Donc, c'est sûr que là, si bon, mon permis, s'il l'enlève, ça sera justifié. Mais bon, je vais être emmerdé grave, quoi. Puis s'ils me mettent une peine de prison ferme, mes ouvriers, ils seront licenciés sur le champ. Hein. J'ai 5 ouvriers en CDI, ils vont être licenciés les 5. Parce que si moi je suis pas là pour pérenniser l'avenir de mon entreprise, qui va le faire? Les chantiers tombent pas tout seuls, c'est moi, j'ai un travail en amont à faire et grâce à ça je nourris 5 familles quoi. Enfin c'est comme ça, on verra bien.
C'est vrai que quand on regarde le tribunal, ils ont l'air fatigués quoi. Plus les cas avancent, plus la tête tombe.
Ben ouais, non mais je veux dire, la dame avec les cheveux gris, elle faisait que dormir quoi. Elle faisait que dormir. Hein. Quand mon avocat est en train de parler, ils sont là à se passer des petits mots, à s'appeler, oui oui, non mais j'ai bien vu, machin. Non mais mon avocat il plaide pour moi quand même, merde. C'est la justice ou quoi? On est où là? J'ai l'impression qu'ils savent déjà ce qu'ils vont infliger à la personne qui est devant la barre, hein, sans même écouter la défense quoi. Donc bon, on verra bien.
Alors voilà, voilà, vous, selon votre sensibilité, ce type vous est sympathique ou non, selon vous, il ment pas, il dissimule, etc. Mais votre avis, comme le mien, ne devrait avoir aucune importance. On devrait pouvoir enquêter suffisamment longtemps pour pouvoir déterminer une vérité ou une justice. Or, effectivement, ça n'est pas le cas. Alors, les affaires se succèdent très souvent. Je parlais du théâtre tout à l'heure. C'est la métaphore qui vient tout de suite à l'esprit quand on rentre dans un tribunal. Je parlais de Jean Valjean, du Misérable, etc. Mais dans beaucoup de tribunaux, enfin, notamment à Paris, on ne peut pas ne pas penser à Daumier, aux dessins de Daumier, comme aux sculptures aussi de Daumier quand on voit des personnages qui se présentent, des personnes qui se présentent dans le box. Et là, il y avait deux garçons, deux jeunes garçons d'origine de Normandie, venant de Normandie, arrêtés là pour une histoire de bagarre, de vol de sacs, de cigarettes qu'ils avaient demandé à un passant. Deux jeunes des rues perdus, hagards, essayant entre la roublardise et l'errance, comme ça, qui ressemblait tout à fait, les joues creuses, pâles, angoissées, ressemblant, cela dit, d'assez près aux policiers qui sont derrière eux et qui les gardent. Ils ont à peu près le même âge, un peu les mêmes têtes. Eux sont très inquiets. Les flics derrière ont l'air de s'ennuyer profondément. Et effectivement, ils ont l'air prédestinés à être condamnés. La justice de classe, elle se donne aussi à voir dans l'attitude des corps, entre celui de la procureure, sa langue, son langage, son ton, sa verve, son verbe, et ces garçons, la tête rentrée dans les épaules, qui n'arrivent pas à articuler trois phrases, là, dans l'expression elle-même, sans même rentrer dans les dossiers, dans les faits, cette justice est là, justice de classe est là. L'appréciation de Dominique Noguère, qui est avocate et vice-présidente de la Ligue de défense des droits de l'homme.
Écoutez, je crois qu'on a vu passer 6 dossiers. J'ai trouvé que dans certains cas, les réquisitions étaient extrêmement dures. Je ne sais pas si le tribunal les suivra, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où il y a quand même eu 2 mandats de dépôt qui ont été requis pour des infractions qui en elles-mêmes sont pas très importantes, mais qui sont pour des personnes qui sont en état de récidive légale. Donc on a l'application là exacte des fameuses peines planchers. Et vous avez remarqué aussi quelque chose d'assez particulier qui n'existait pas avant, c'est que maintenant on lit les condamnations du tribunal pour enfants. À l'époque où les gens étaient mineurs. Avant, jusqu'à l'âge de 18 ans, on ne savait pas ce qui se passait. Le casier judiciaire, on repartait à zéro. Donc effectivement, le droit à l'oubli, le droit à l'erreur de jeunesse, même si elle a été importante, etc., semble petit à petit s'émietter. Et ça aussi, c'est inquiétant. On a l'impression qu'on perd complètement les valeurs des choses. Donc on va avoir des condamnations lourdes pour des... Je pense que, par exemple, sur l'histoire des cigarettes, d'une agression pour avoir... parce qu'on n'a pas voulu vous donner une deuxième cigarette, se voir requérir un an de prison ferme avec mandat de dépôt, je ne suis pas sûre que la personne ait compris. Pourquoi ? Et je vais me dire quelque chose de terrible. J'avais l'impression que c'était presque évident que cette personne allait se prendre ce type de réquisition. Parce qu'il en avait un peu, voilà, paumé, pas de boulot, pas de domicile, un peu... Il est le cas type de celui qui va prendre beaucoup. Et ça, c'est quand même très inquiétant.
On restera au tribunal des comparutions immédiates demain encore. On va finir aujourd'hui cette première partie avec Serge Portelli, qui est vice-président au tribunal de Paris, président de la 12e chambre correctionnelle, qui a été conseiller auprès du président de l'Assemblée nationale et doyen des juges d'instruction au tribunal de Créteil, et qui est un peu la bête noire de notre actuel président de la République, Portelli, ayant déclaré que Nicolas Sarkozy, je cite, essaye de faire peur aux Français. Et il cite un chiffre grossièrement faux et il a diagnostiqué chez le président de la République un échec patent de sa politique et une erreur d'analyse venant d'un vice-président au tribunal de Paris. C'était un peu lourd et ça lui a valu l'aménité du président, mais aussi ça n'a rien nullement empêché cet homme, ce magistrat, de parler.
La politique de comparution immédiate, celle qui est mise en œuvre dans ces juridictions-là, c'est en partie un effet d'annonce, mais en même temps c'est une réalité. Hein, parce que les gens qui vont en prison, ils y vont réellement. Le problème, c'est que s'il fallait suivre les réquisitions des procureurs de la République, c'est pas 61 ou 62 000 personnes qu'on aurait en prison, c'est 100, 200 000 personnes. Voilà. Simplement, on ne peut pas. Le gouvernement n'a pas les moyens d'incarcérer tous les gens qui sont condamnés à de la peine de prison. Alors on devrait peut-être se poser la question. Est-ce que ça vaut la peine de prononcer ces peines de prison ? Pour moi, le vrai problème, il est là. Trop de peines de prison sont prononcées en France. Ce sont des gens pour lesquels on peut faire d'autres sanctions. Il y a des mesures intelligentes, il y a le travail d'intérêt général, il y a même parfois même la semi-liberté, vous avez... Enfin, la mise à l'épreuve qui existe. Et on pourrait inventer d'autres peines. Hein. Le Parlement pourrait avoir un petit peu d'imagination. Mais on ne le fait pas et en fait on reste attaché profondément, viscéralement, culturellement attaché à cette sanction magique qu'est la prison. Ce qui fait qu'on a ce que nos spécialistes technocrates de la justice appellent des flux qu'on ne peut plus maîtriser. Mais alors, c'est pas grave. Parce que derrière... On a un autre discours qui est de dire « Mais c'est un scandale !» Il y a 82 000, je vous donne les derniers chiffres là, 82 000 peines de prison qui ne sont pas exécutées. Au secours, il faut absolument que ce scandale cesse. Donc, on va construire des prisons. Alors effectivement, vous avez de superbes programmes pénitentiaires qui sont à venir, où on va engloutir des sommes colossales, mais colossales. Ce qui va vous permettre de tenir un autre discours, très avantageux, en disant « Mais vous voyez bien, en France, notre budget de la justice est magnifique. Dans cette période de récession où tous les budgets, tous les ministères sombrent, nous avons quand même une progression du budget du ministère de la Justice. » Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que cette progression, elle est fondée uniquement sur des crédits immenses, colossaux, qui sont donnés à l'administration pénitentiaire, qui n'est qu'une partie du ministère de la Justice, mais c'est elle qui pompe tous les crédits. Et derrière, vous avez des magistrats qui sont pas assez nombreux, des greffiers, il y en a de moins en moins aussi, des huissiers, pareil, il faut courir après. Enfin, le budget de l'aide juridictionnelle qui est un vrai scandale. Donc voilà, je veux dire, cette politique judiciaire-là est une pure aberration. On n'essaye absolument pas de comprendre ce qui se passe. On n'essaye absolument pas de comprendre quelle est l'origine de la délinquance. Et en fait, on a une sorte de prêt-à-porter idéologique qu'on colle sur cette réalité-là, avec une réponse très simple, destinée au bon peuple, entre guillemets, et aussi en grande partie à l'extrême droite, en disant « Vous inquiétez pas, on va cogner, on va les mettre en prison, tout sera réglé ». Mais ça ne réglera évidemment jamais rien. Ça ne fera jamais baisser la délinquance, ça ne fera que la croître. En fait, il faut inverser complètement toute cette politique aberrante. Vous voyez, c'est, plutôt que de construire de nouvelles prisons, il faut construire de nouvelles unités qui permettent d'héberger les intéressés à la sortie de prison. Il faudrait que ce qu'on appelle les SPIP, c'est-à-dire les services qui travaillent avec le juge de l'application des peines, et qui sont chargés justement du suivi en prison et à l'extérieur des gens qui sont condamnés soient 3, 4, 5 fois plus nombreux. Et malheureusement, on ne prend pas le chemin de ça. Moi, quand j'ouvre la télé, je vois de la pub pour devenir gardien de prison. Donc la réalité, elle est là. On peut dire que la comparution immédiate, c'est vraiment l'institution qui fournit le plus la prison.
Demain, la suite. Merci à tous. C'était un reportage de Charlotte Perry, Dominique Noguer et Serge Portelli. Merci. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. À la rubrique émission là-bas, j'y suis. Michel Thomas, Christian Thibaudeau étaient à la technique aujourd'hui. Coy Nguyen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Lebot. Et Catherine Pinto attend vos messages au répondeur de là-bas, j'y suis, au 01 56 40 37 37.